d'action.
Et voilà une belle journée pour écouter la radio du cinéma.
Bonjour Louise, bienvenue à la radio du cinéma.
Bonjour, merci de me recevoir.
Louise, donc vous venez de réaliser votre premier long métrage qui s'appelle donc Vingt Dieux. Et ce premier film, en fait, c'est un film, on va dire, qui revendique tout un environnement sociétal, puisque vous portez haut et fort la voix du monde rural, très clairement. Je vais vous demander, avant qu'on parle du film, de vous présenter. Vous avez un très joli parcours, mais un peu atypique. Vous avez appris le cinéma de manière un petit peu différente. Et du coup, je pense que c'est très intéressant que les auditeurs puissent savoir qu'on peut apprendre le cinéma de manière un peu différente.
Oui, donc moi, je suis Louise Courvoisier. J'ai grandi dans un petit village dans le Jura qui s'appelle Crécia, un petit village de 300 habitants. Et je suis le cinéma est un peu arrivé par hasard dans ma vie parce que j'ai voulu partir à l'internat pour voir un peu autre chose. Et j'ai choisi l'option cinéma sans avoir vu vraiment des films dans ma vie. Et ça m'a donné un peu le goût déjà de voir des films. Mais je ne savais pas encore exactement où me situer. Puis j'ai continué un peu là-dedans sans trop savoir. Puis je suis rentrée à la Cinéfabrique, qui est une école assez récente, qui a 10 ans.
Qui est basée à Lyon, donc.
Voilà, qui est basée à Lyon, qui est une école de cinéma qui existe depuis 10 ans. Et moi, j'ai fait partie de la première promotion de cette école qui a été montée par Claude Mourieras. Et donc, dans cette école, il y a une volonté d'ouvrir un public un petit peu différent, dans le sens un peu plus de diversité de parcours. On n'est pas obligé d'avoir une cinéphilie très grande au moment où on rentre. On n'est pas obligé d'avoir non plus un parcours scolaire typique. Et c'était dans l'idée aussi que le cinéma peut venir un peu de partout. Donc, on avait des promotions, en fait, avec des parcours très, très différents. Et ça, c'était riche. Et on nous a permis vraiment d'essayer des choses. Claude disait toujours... rater mieux, rater encore, parce que c'est en ratant qu'on arrive
qu'on s'affranchit,
qu'on sait ce qu'on... Voilà. Donc il y avait un petit peu cette décomplexion aussi de faire des choses qui étaient au début sûrement pas terribles, mais mm-hmm. où on trouve un peu notre style et on apprend à se connaître, en fait.
On essaye de monter les marches d'un escalier marche par marche, et finalement on progresse comme ça, quoi.
Oui, puis on n'a pas la pression de faire quelque chose de bien tout de suite, mm-hmm. ce qui est en fait très important pour gagner en confiance en soi dans notre univers, dans ce qu'on fait, parce que c'est un moment où on se construit aussi encore artistiquement.
Du coup, le cinéma, pour vous, ça démarre comment, en fait? C'est vraiment cette école qui vous a révélé, ou vous aviez un centre d'intérêt auparavant sur le cinéma, et quelque part, ça a confirmé un petit peu vos convictions?
Je pense que là, ce que ça a confirmé, c'est vraiment, moi, c'est la pratique qui m'a donné envie de faire, plus que ma cinéphilie, c'est vraiment le fait de commencer à pratiquer, à fabriquer des films, où j'ai pris goût à travailler avec des équipes, à travailler avec des comédiens. Et c'est vraiment ça qui m'a donné le goût quand j'ai compris que c'était une aventure humaine assez exceptionnelle quand même, et puis qu'on pouvait aller jusqu'au bout, avoir des idées, qu'on pouvait pousser à l'image, au son, utiliser tous ces outils-là dans le but de raconter quelque chose. Je trouvais que ça, c'était assez... Ça m'a donné goût à la réalisation de fabriquer.
Alors ce film, évidemment, c'est votre premier film, mais les prix commencent à s'accumuler.
En tout cas, oui, c'est vrai que c'est super de voir que le film il a autant de résonance, ça me fait mm-hmm. très plaisir parce qu'on l'a fait vraiment à notre manière. Moi, j'ai l'impression d'avoir répondu à aucun code et d'avoir été très libre dans la fabrication et d'avoir pu vraiment m'exprimer comme j'avais envie de le faire. Et ça, c'est un grand luxe que j'ai eu aussi grâce à ma productrice qui m'a fait confiance et qui m'a suivie dans ce projet qui n'était pas classique, quoi, et donc c'est très agréable de voir qu'il marche, et en même temps, c'était pas... Je l'ai fait dans le but d'être le plus sincère possible, et après, on sait jamais trop si ça va rebondir sur les autres ou pas, on espère, mais le but, c'est aussi d'être sincère avec soi, avant tout, quoi.
Totone, en observant un petit peu Totone, qui est votre héros dans le film, pourrait vraiment s'exclamer « Vingt Dieux » en parlant de ce parcours, quoi, hein, qui est une expression vraiment très régionale, mais qui veut bien dire en fait un étonnement extrêmement présent et une forme d'admiration de la situation, ou en tout cas un constat visuel. Voilà, on va parler donc du film « Vingt Dieux ». Alors, « Vingt Dieux », c'est une histoire qui démarre quelque part par un drame et qui est évidemment toute la trame de l'histoire, en fait. On parle d'une famille, on est dans les Vosges, en fait, dans le Jura, pardon. Et le monde agricole a ses codes. On les découvre très, très rapidement, très spontanément. Et on rentre dans ce film comme si finalement, pardon, on était un petit peu invité à la fête, puisque ça démarre de cette manière-là. L'alcool est omniprésent. Ça fait partie des codes du film. Et il y a un drame, en fait. Sans spoiler le film, je pense qu'on peut obligatoirement en parler, sinon Voilà, donc le papa de Toton, qui est le héros, a un accident, il a bu trop d'alcool, en fait, et il se tue. Voilà. Et par rapport à ça, va démarrer véritablement une vraie histoire. Toton, c'est le grand frère d'une jeune fille, de sa sœur, donc, qui est beaucoup plus jeune que lui, et il va devoir assumer complètement cette vie à la campagne, sans argent. Et il découvre la vie au fil des femmes, puisqu'en fait, les femmes sont omniprésentes dans la vie de Toton. Peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu plus en détail du pitch du film, en fait. Mais les grandes étapes, on vient de les entendre, ce sont celles-ci, en fait.
Oui, et c'est vrai que sur fond de drame, comme vous l'avez dit, il y a aussi la volonté pour moi de, en fait, d'aller vers un film quand même très lumineux et de bien plus sûr. En plus lumineux. Ouais. Et même de s'autoriser à mettre beaucoup de touches d'humour dans ce film qui est pourtant avec un contexte assez grave à plein de moments. Parce que l'idée, c'était jamais d'enfoncer les personnages, de les écraser et d'être le plus nuancé possible dans ce qu'on raconte, justement, de ne pas rentrer dans quelque chose de... Enfin, d'éviter le pathos à tout prix, en fait, et d'essayer d'être... le plus nuancé, le plus juste, et de prendre comme point de départ vraiment l'humain, les personnages, avant même de raconter une situation sociale, de parler vraiment de ce personnage de Toton et puis de son entourage, et d'essayer de dresser des portraits nuancés et attachants, malgré plein d'aspects aussi qui débordent un peu chez tous les personnages, parce que je trouve que c'est important aussi de ne pas faire des personnages qui sont parfaits, mais qui ont plein de failles, et on s'attache aussi aux failles des personnages.
Alors, évidemment, un point fondamental du film, c'est que les acteurs ne sont pas des acteurs professionnels. Et de fait, on rentre dans la peau de ces personnages parce qu'en réalité, ils ne sont pas des personnages à part entière, ils sont les personnes qu'ils incarnent. Et du coup, on a beaucoup de compassion. Parce que Toton, finalement, au fil de ce film, il prend des claques et des coups de poing au premier degré comme au deuxième degré. Et finalement, il y a beaucoup d'étapes pour lesquelles il va devoir se relever. Et c'est là où les femmes sont omniprésentes dans ce film. Et c'est très attachant, d'ailleurs, de voir cette complicité naissante, systématique, au niveau de ces personnages. Puisqu'en fait, la maman de Toton, on n'en parle jamais dans le film. Et j'ai la sensation que finalement, sa petite sœur, c'est aussi sa mère. D'une certaine façon, il y a des remarques d'une grande maturité de la part de sa sœur. Et à certains moments, on se dit, mais waouh, quoi, elle a 7 ans. Et en même temps, elle lui fait la leçon, elle l'encourage quand il est au fond du seau. Ça, c'est une grande leçon que vous nous faites passer dans ce film. Vous y teniez particulièrement parce qu'elle est très incarnée. Et en même temps, il y a une femme dans une jeune fille de 7 ans.
Bah, en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, mais ça, c'est aussi présent dans tous les personnages, c'est que ces personnages-là, qui sont beaucoup plus vite que d'autres, confrontés à des choses assez difficiles, ils vont côtoyer comme ça et une grande maturité et un endroit où ils sont très surprenants, justement, dans le fait d'être... d'avoir une lucidité sur leur situation et de comprendre beaucoup de choses de ce qui leur arrive, et puis aussi être quand même des enfants encore à plein d'endroits. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était comment ces deux choses peuvent se côtoyer. Donc chez la petite, en effet, c'est très présent. En même temps, elle a besoin qu'on l'aide à prendre sa douche, et en même temps, parfois, elle comprend des choses. On se dit, ah oui, elle a un temps d'avance quand même, parce qu'elle est aussi très observatrice et par sa situation.
Ou elle fait preuve de lucidité à des moments où il y a des prises de décision. Oui,
voilà.
Où véritablement, en fait, Toton, il est complètement à l'ouest. Et elle, pour le coup, elle le recadre et elle le relance finalement.
Ouais. Pardon. Non, mais c'est parce que justement, il faut équipe tous les deux et ça se fait petit à petit. Ils vont apprendre à faire équipe. Et lui, je trouve qu'il côtoie aussi vraiment ça. En fait, justement, il est abîmé de certaines choses dans sa vie qui lui donnent aussi une expérience de la vie qui est au-dessus de la plupart des gens de son âge. Et en même temps, à d'autres endroits, on sent qu'il est encore très vulnérable, très fragile, et qu'il a une forme de naïveté aussi. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse toujours dans les personnages, c'est quand il y a des contradictions, en fait, je trouve que ça raconte bien la vie, parce qu'on est plein de contradictions. Et ça, c'est les leurs, quoi.
Alors, Toton, évidemment, il va devoir se réinventer, ou plutôt s'inventer, puisque il a 18 ans. Et 18 ans, en fait, la maturité, elle n'est pas omniprésente dans ses décisions. En revanche, il doit assumer, entre guillemets, sa petite famille. Et donc, il cherche aussi à exister dans la société. Il va devoir donc trouver un travail. Ça se passe plus ou moins bien, une vraie aventure. À un moment donné, donc, son père, qui par définition élève donc Toton et sa sœur, on n'est pas habitué à voir ça au cinéma. Ça, c'est déjà un premier message. Et au-delà de ça, on s'intéresse... alors, son prénom, je crois que c'est Marie-Lise, hein, c'est ça, à une agricultrice qui s'assume complètement, qui va, à un moment donné, il y a une scène de vêlage, pour les non-spécialistes, c'est la mise au monde d'un veau. Habituellement, ça ne se fait pas par une femme. Et là, donc, Marie-Lise est agricultrice. Et du coup, elle fait sa production de lait, de fromage, etc. C'est vraiment, vous avez su casser les codes par rapport à ça, et on prend une vraie leçon sur l'humanité, quoi, d'une manière générale, en fait, parce qu'on a bien souvent des codes comme ça, et je trouve que vous avez complètement réinventé ces codes.
Bah, ça me fait plaisir. En tout cas, j'ai essayé de réfléchir à chaque fois sur chaque personnage, comment parce qu'on a le réflexe en fait, de rentrer dans les représentations qu'on a l'habitude de recevoir. Et en fait, en écrivant, ça devient très vite un réflexe de reproduire ce qu'on a beaucoup vu. Et moi, j'étais particulièrement attentive à ça parce que je trouve que c'est important justement de se questionner là-dessus et de réfléchir à comment on représente les femmes, les hommes, qu'est-ce qu'on raconte d'eux et comment on peut aussi des fois un peu aller chercher autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir aussi. Et j'ai trouvé intéressant la différence de parcours aussi parce qu'on parle, là vraiment le film parle vraiment de la jeunesse rurale et il y a plusieurs manières d'être jeune dans la ruralité. Il y a justement un petit peu plus le profil de Totten qui est celui qui n'a pas vraiment de projet, qui s'est un peu perdu, qui est un peu abîmé, qui passe beaucoup par la violence parce qu'il n'a pas forcément d'autres outils à ce moment-là. Et elle, qui a un parcours tout tracé, qui est très, très ancrée dans ce qu'elle fait, qui a un parcours professionnel alors qu'elle est très jeune, qui est complètement tracé. Et il y a vraiment les deux profils, ça existe.
Avec une vraie adversité dans le quotidien, voilà. Pas de jour de repos, des journées de travail de 15 heures. Ouais. Et ça, on le partage dans le film. On est vraiment très impliqué émotionnellement dans ces séquences. Et ça me fait la transition justement sur quelque chose que je voudrais aussi mettre en lumière, c'est votre exigence des plans. Clairement, il y a des séquences en fait qui ont dû certainement être un peu compliquées à mettre en œuvre. Cette compétition de voitures là, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, qui est du stock-car, c'est bien ça en fait. C'est des voitures qui se renversent, qui font des tonneaux, qui se rentrent un peu dedans comme des autotamponneuses. Filmer ça, j'imagine que ça n'a pas dû être quelque chose de facile. Il y a beaucoup de mouvements de caméra la nuit. Avec les fameuses motos de cross là, en fait, qui se déplacent. Et tout ça, en fait, je pense qu'il y a une exigence de votre part en plus créative. Et après, on va parler du son aussi, qui est très important dans votre film, surtout qu'il est un peu familial. Mais parlez-nous un petit peu comme ça de toute cette exigence que vous avez su amener ou imposer à vos équipes pour qu'à la finale, l'émotion transpire en permanence.
Moi, ce que je trouve incroyable avec le cinéma, c'est qu'on a plein d'outils et puis on peut réfléchir où on se situe avec l'image, avec le son, avec tous ces outils qu'on a à disposition. Donc, il y a plein de choix à faire et ça raconte à chaque fois quelque chose. Chaque choix va raconter quelque chose. Et c'est vrai que c'était très ambitieux au niveau de la mise en scène, ce film, parce que j'aime bien jouer les contrastes, c'est-à-dire des scènes très intimes qui sont toujours ambitieuses, parce que parfois deux personnages d'une pièce, il faut que la scène marche, sinon il y a rien d'autre que ça pour que ça marche. Donc c'est aussi, c'est déjà en fait ambitieux, mais aussi des scènes où on va se déployer comme des scènes de bal, des scènes de comice où on a fait cette première scène dont vous parliez tout à l'heure, en plan séquence avec 300 figurants, des chevaux qui doivent arriver au bon moment, des vaches qui sont très difficiles à contrôler aussi.
Mais comment on peut synchroniser tout ça? C'est incroyable.
Alors ça a été beaucoup beaucoup de préparation. On a carrément fait une petite maquette de tout ce que le personnage qu'on suit va traverser, de tout son parcours, et puis réfléchir à chaque endroit de son parcours, qu'est-ce qui se passe exactement. Exactement. Et toute une équipe de mise en scène, après je pense qu'on était une dizaine en mise en scène ce jour-là, placée stratégiquement, qui donne les tops au bon moment pour que les choses arrivent au bon moment dans l'image.
Que tout soit synchronisé.
Que tout soit synchronisé, et on a tout reconstruit, que ce soit donc, les décors, on est parti d'un champ où il n'y avait rien du tout, puis on a tout construit de rien, puis ensuite les figurants qu'il faut choisir aussi, parce que c'est important, les figurants c'est aussi ça qui va raconter un lieu, c'est les gens qui l'habitent, donc on a choisi des figurants de manière très, très minutieuse, puis toutes les petites actions, et ça a été des semaines de travail, de réfléchir, là il y aura quelqu'un qui va porter un petit agneau, là il y a deux personnes qui vont se faire un bisou, là il y a quelqu'un qui va s'occuper du barbecue, et c'est un mélange entre toutes les images que moi je connais bien, avec lesquelles j'ai grandi, que j'ai beaucoup vues, et comment les mettre au bon moment, au bon endroit, pour qu'on les repère sans les repérer, parce que ce plan-là, c'est pas un plan qui montre, qui est pas démonstratif du tout, mais l'idée, c'était qu'on sente tout ça, donc la plupart de ces 300 figurants sont en flou, en arrière-plan et tout ça, mais je trouve que ça, ça nous donne quand même une ambiance. Et justement, le son a une grande, grande place dans ce plan particulièrement, qui vient vraiment orienter le regard sur tel ou tel détail de l'image. Et ça a été un très long travail de montage son, enfin déjà de prise de son, où on a, je pense, fait une heure de son seul, ce qui est très rare sur un tournage, pour avoir tous les détails, les séparer et pouvoir vraiment les orchestrer pour diriger le regard dans ce plan.
Un mini-concert émotionnel, finalement. Hein.
Oui, ben voilà, moi j'aime bien ces plans où il y a beaucoup de choses à orchestrer, c'est assez...
On sent cette exigence, Louise, y compris dans le son, et au générique, on peut apercevoir le mot courvoisier sur plusieurs lignes, et c'est pas que votre prénom. Je crois que vous avez une famille, en tout cas je l'ai découvert hier soir, qui est très impliquée dans le monde de l'art. Le son, le décor, j'ai plus tout en mémoire, mais il y a beaucoup d'intervenants qui appartiennent à votre famille. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi saluer et souligner. Racontez-nous un peu cette aventure humaine, comment finalement tout le monde s'implique à vos côtés, autour de vous.
Bah alors, ils sont intervenus à plusieurs endroits du film parce que comme artistiquement, on est très proches, on est très investis dans les projets des uns des autres. C'était assez évident pour moi de les prendre avec un peu à tous les aspects qui sont charnières pour moi de la fabrication d'un film. Donc la déco, où je trouve qu'il faut avoir un regard aussi très précis et c'est important d'être connecté. Donc j'ai travaillé avec ma sœur et avec mon frère.
Qui est décoratrice
Non, qui n'est pas du tout décoratrice, d'accord. Mais je savais qu'elle a un très bon sens des espaces. Elle aime beaucoup faire ça et je savais qu'elle était dans ma tête et qu'elle aurait toutes les bonnes idées. En effet, je n'ai pas du tout regretté. Et pour la musique, donc avec mon autre frère et ma mère qui ont composé la musique. Et c'est un travail très délicat pour moi de justement réussir à se comprendre, parler le même langage en fait quand on parle de musique. Et pour ça, il fallait vraiment que je sois dans un terrain de confort dans le dialogue, dans la recherche. Et c'était vraiment le cas avec eux qui n'avaient jamais fait non plus de musique de film. Hein. C'était aussi une toute première expérience. Mais on a eu le luxe un peu de pouvoir chercher ensemble longtemps, de chercher les sonorités qui nous intéressaient et ensuite de développer. Après, il y a un bagage musical dans la famille, donc on avait déjà ces outils-là un petit peu, mais de trouver quels instruments allaient être les instruments du film et comment on allait accompagner justement ces paysages, accompagner ces situations sans trop souligner les émotions qu'il y a dans le film. Je trouve que ça peut être un peu le risque de trouver la juste place. Et donc, c'est avec une musique très épurée et qui est vraiment au service à chaque
fois. Qui sert de ponctuation, mais voilà. Qui n'est pas en réalité la phrase maître à chaque fois.
Voilà, tout à fait. J'avais vraiment envie que ça vienne ponctuer. Et souvent, ça accompagne aussi beaucoup les paysages, beaucoup la nature. Et
oui,
ça se mélange
postales,
presque.
D'ailleurs, voilà. De la région.
Voilà, ça se mélange presque, en fait, à la nature. Et c'est ça qui m'intéressait de travailler. Donc, j'ai fait un travail avec eux et avec le monteur son aussi, enfin avec l'ingénieur du son, puis le monteur son, puis le mixage. C'était important pour moi de travailler toute la partition sonore du film. En fait, pour moi, ça va ensemble, c'est pas séparé. Il y a pas la musique puis le son. Il faut que ça se mélange bien et tout est un peu comme une partition. En tout cas, c'est comme ça que je le travaille moi.
Vous auriez pu avoir un rôle dans ce film, en fait, d'occuper, puisque c'est votre région, c'est des gens que vous connaissez bien. Vous auriez pu être un des personnages qu'on voit en arrière-plan, etc. Ça aurait pu être ça aussi, votre vie ?
Oui, c'est sûr. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu un hasard qui m'a mis dans le cinéma. Après, moi, j'ai quand même eu plus de choix que les personnages dont je parle dans le film. Donc, j'avais cette chance de pouvoir aussi choisir ma direction professionnelle, disons.
Ouais. Votre futur.
Mais en tout cas, c'est sûr que ça aurait pu vraiment se passer très différemment pour moi et complètement s'inverser. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de parler de ça, parce que j'avais l'impression de maîtriser mon sujet, de savoir de quoi je parlais et de qui je parlais très précisément.
Et donc, cette question un peu plus philosophique, c'est de savoir, en fait, Louise, ce que ce film dit de vous.
Moi, j'ai l'impression que ce que ça dit de moi, c'est mon intérêt pour les gens, quoi, pour l'humain, j'avais envie en tout cas d'aller loin dans la construction des personnages, de justement proposer un portrait nuancé, de pas juste faire des rôles utiles pour avancer dans une histoire, mais vraiment d'essayer de construire des personnages forts et justement inspirés du réel, mais en les emmenant vraiment dans la fiction. Et c'est ça vraiment que j'avais envie de faire, et j'avais envie de montrer ce regard que j'ai, parce que moi j'ai l'habitude d'observer beaucoup, j'ai beaucoup observé quand j'étais plus jeune, j'étais très observatrice et c'est quelque chose que j'aime bien mettre dans mes scénarios aussi, le goût du détail quoi. Et quand les gens arrivent à sentir ce goût du détail que j'ai l'impression qu'ils ont un peu appris à me connaître quoi.
D'accord. Merci infiniment, Louise, pour toutes ces belles paroles. Il y a une tradition à la radio du cinéma. Je vais vous demander votre musique de film préférée. votre film préféré, dans l'ordre d'ailleurs, ça va être votre film préféré, votre musique de film préférée et votre réplique.
Donc le film, je pense que c'est un peu le film qui m'a marqué dans mon parcours, c'est Le Privé, qui s'appelle aussi The Long Goodbye de Robert Altman.
D'accord.
Qui est justement un film de personnage très très fort, où il se passe rien mais il se passe tout. Et voilà, c'est un peu mon premier coup de foudre avec Robert Altman, qui s'est passé avec ce film-là, donc c'est le premier qui m'est venu en tête.
You ever think about suicide, Marlboro? Me, I don't believe in it.
La musique de film, celle qui m'est venue, parce que je pense que je l'ai souvent dans la tête, c'est Blue Velvet de David Lynch, cette magnifique chanson qui aussi est une très belle scène dans le film. Donc quand elle est chantée, elle revient plusieurs fois, cette musique Blue Velvet, que je trouve emblématique, très belle, et qui revient souvent dans ma tête. Et la réplique, alors je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est juste parce que c'est une réplique très culte et que c'est un film que j'aime beaucoup, c'est Nobody's Perfect de Some Like It Hot de Certains l'aiment chaud, qui est la phrase finale, qui est un peu quand même une magnifique manière de finir le film. Et donc en effet une réplique très très culte, mais qui ne perd pas de son charme.
Intemporel.
Voilà.
That's good, I'm gonna level with you, we can't get married at all.
Why not?
Well, in the first place, I'm not a natural blonde.
Doesn't matter.
I smoke all the time.
I don't care.
Well, I have a terrible past. For 3 years now, I've been living with a saxophone player.
I forgive you.
I can never have children.
We can adopt some.
But you don't understand, Osgood. I'm a man.
Well, nobody's perfect.